Yvan Jablanca, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être venu à Bordeaux pour nous présenter Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités aux éditions du Seuil. C'est quoi une nouvelle masculinité ?
Et je voudrais dire que je suis heureux voilà, de parler de ce livre devant vous. C'est des questions qui me paraissent importantes et puis qui nous traversent tous, collectivement, individuellement. Certains seront d'accord avec moi, d'autres ne seront pas d'accord. Et à tous, je voudrais témoigner ma gratitude parce que, après tout, un monde meilleur, on le fait ensemble. Le terme masculinité, que j'emploie au pluriel, n'est pas de moi. C'est une sociologue australienne qui s'appelle Raewyn Connell qui l'a promu, je crois, pour la première fois. C'est un livre qui s'appelle, son propre livre s'appelle Masculinities, en français masculinité au pluriel, et il a été publié il y a une vingtaine d'années. L'idée du terme, l'avantage du terme, à mon sens, est double. Le terme permet de dissocier le masculin de la virilité. La virilité, c'est une qualité, une qualité supposée, qui est en fait assez réduite et sur laquelle on peut passer assez rapidement, même si, bien sûr, on peut faire une histoire de la virilité. D'ailleurs, il y a eu au Seuil, il y a quelques années, une histoire de la virilité très importante. Mais enfin, la virilité, c'est plutôt de l'ordre de la qualité ou de la sociabilité. Et donc, il me paraissait important de faire la distinction entre virilité et masculinité, parce que j'en arrive à la deuxième, au deuxième avantage de ce terme, c'est que la masculinité permet de penser ce que j'appellerais le soi mâle, c'est-à-dire la manière dont des hommes se projettent dans une forme de culture, une mise en scène de soi, une invention de soi, une présentation de soi, et c'est ce que j'appelle précisément, après d'autres, la masculinité, la manière dont on est homme. On naît au sens de naître, ensuite la manière dont on est au sens d'être homme, la manière dont on grandit, on se présente, on s'invente. Et donc on peut comme ça décliner cette masculinité dans un certain nombre de sphères sociales, le couple, la séduction, le travail, des formes de sociabilité. Donc la masculinité, c'est cette manière dont les hommes se présentent, s'inventent et se mettent en scène. Vous aurez remarqué que j'ai utilisé ce terme au pluriel. C'est pour rappeler qu'il n'y a pas d'éternel masculin, ça ne veut rien dire. Il y a mille et une façons d'être homme et ça nous projette au cœur du débat, enfin en tout cas dans un des débats qui me paraissent importants, puisqu'il n'y a pas une seule manière d'être homme, eh bien de quelle manière on a envie d'être homme, de quelle masculinité voulons-nous ? Et c'est tout le sens de ce livre. Mon livre porte moins sur le féminisme que sur ces masculinités. De quelle masculinité voulons-nous ? C'est un débat qui nous traverse de manière très intime, puisque ça met en jeu des formes aussi diverses que la séduction, la sexualité, le couple, la famille, le travail, la vie politique, etc. Mais je crois que toutes ces questions très intimes doivent être traitées non seulement publiquement, mais collectivement. D'où ce livre. Et parler de masculinité au pluriel, c'est montrer que... c'est postuler qu'être un homme, ça ne se décide pas simplement dans son fort intérieur ou dans une pratique quotidienne, ça se discute collectivement et publiquement. C'est peut-être un des intérêts, une des importances de MeToo que d'avoir laissé entendre que le masculin était objet de débat. Voilà, et c'est tout le sens de mon livre.
À propos de ces définitions de masculinité, vous avez identifié quatre, dans votre livre, vous présentez quatre masculins, le masculin d'ostentation, de contrôle, de sacrifice et d'ambiguïté. Je voudrais que vous m'expliquiez, ou que vous expliquiez plutôt aux gens même qui n'ont pas encore lu votre livre, comment vous êtes arrivé à ces quatre catégories ?
Alors, ces quatre catégories que vous avez rappelées, hein, masculinité d'ostentation, masculinité de sacrifice, masculinité de contrôle, masculinité d'ambiguïté, sont en fait des masculinités de domination. Et c'est le plus important parce qu'il y a des masculinités de domination, mais il y a aussi des masculinités dominées, illégitimes, dissidentes. Et donc, dans ce chapitre que vous évoquez, qui fait partie d'une réflexion plus large sur les sociétés patriarcales, je me suis demandé en quoi consistaient les masculinités de domination. Rae Wynne-Connell, que j'évoquais tout à l'heure, elle répond de manière un petit peu monolithique. Elle parle de masculinité hégémonique. Il y a pour elle une masculinité hégémonique qui, dans une société donnée ou à une époque donnée, domine toute l'économie du genre, c'est-à-dire toutes les autres masculinités. Et moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop simple de répondre en ces termes. Masculinité hégémonique, sans doute. Alors, en France, on va dire, par exemple, un homme blanc, aisé, de 40 à 60 ans. Vous voyez que j'en fais absolument partie. Mais le problème, c'est que dans d'autres sociétés ou dans les sociétés qui n'existent plus, des sociétés très anciennes ou d'autres sociétés qui n'ont rien à voir avec la nôtre, ou ni la société australienne qui est celle de Rae Wynne-Connell, bon, ce terme ne convient pas. Et donc, j'ai essayé de réfléchir sur les différentes masculinités de domination. Et ces masculinités de domination ne dominent pas simplement les femmes et le féminin, elles dominent aussi d'autres masculinités. Et je crois que c'est une chose importante, parce que quand on parle de masculinité de domination, très souvent, on sous-entend que c'est des masculinités qui dominent les femmes et le féminin. C'est vrai, bien sûr. Mais j'ai ajouté ceci, que ces masculinités de domination dominent aussi d'autres masculinités qui sont jugées illégitimes et qui sont bien souvent humiliées, bafouées ou rabaissées. Alors, par exemple, ça va être les masculinités homosexuelles. Depuis plusieurs siècles, être un homme et être homosexuel, ou se définir comme tel, c'est quelque chose qui est jugé indigne. Et donc, ces hommes-là, par leur sexualité, sont souvent considérés comme des traîtres à leur sexe ou à leur genre, et rejetés de plusieurs manières. Ça peut être un rejet social, mais ça peut être des violences, comme on en voit en France ou ailleurs. Il y a même des violences d'État dans d'autres pays, en Afrique ou en Asie. Une autre masculinité dissidente ou illégitime, ça va être par exemple les Noirs aux États-Unis, où il y a eu pendant longtemps un racisme d'État, et sans doute encore on en voit les vestiges aux États-Unis. Voilà une masculinité, hein, la masculinité des Noirs américains, qui sont publiquement dénoncés comme étant déviants, avec des formes de sous-humanité ou de violence ou de barbarie ou de bestialité, etc. Une autre masculinité qui a été longtemps méprisée, bafouée, ce sont les masculinités associées au judaïsme, les juifs. Les juifs en Europe ont été persécutés, dénoncés, mais aussi méprisés dans leur masculinité, parce que la masculinité juive ashkénaze, en tout cas avant la fondation de l'État d'Israël, qui change un petit peu pas mal de choses à cet égard, la masculinité juive ashkénaze au XIXe et au début du XXe siècle est associée plutôt au féminin. Les juifs ashkénazes se définissent dans une masculinité qui est plutôt douce, féminine. Pour eux, être masculin, c'est plutôt être homme, c'est plutôt lire des livres, discuter plutôt qu'être macho. Cette masculinité méprisée ou illégitime, ça va être par exemple l'intello ou celui qu'on appelle le bouffon dans certaines classes aujourd'hui, c'est-à-dire un garçon qui préfère, qui fuit les jeux violents ou le sport en équipe et qui préfère lire à la récré plutôt que se taper dessus ou courir ou se courir après les uns les autres. Alors, vous voyez qu'on peut discuter en fonction des sociétés, des époques, mais vous voyez que les masculinités de domination mettent en coupe réglée les femmes et le féminin, enfin en tout cas la majorité des femmes, mais aussi des hommes. Et ce qui m'a paru intéressant dans mon livre, au-delà de ces masculinités au sens historique et sociologique, c'était aussi de penser ma propre masculinité, parce que bien sûr, j'ai dit tout à l'heure que, d'une certaine manière, je fais partie de cette masculinité hégémonique que j'ai évoquée, mais après tout, on peut aussi considérer qu'en tant qu'intello ou juif, je fais partie aussi de certaines masculinités qui ont été historiquement délégitimées. Donc, pour moi, c'était intéressant de penser aussi ma propre masculinité, ce que j'essaye de faire dans les dernières pages du livre. En tout cas, vous voyez qu'au-delà du féminisme, il faut aussi penser les guerres du masculin. Les guerres du masculin, c'est ce que je viens d'évoquer. Et je crois qu'en tant qu'homme, il est important de prendre parti, non seulement dans les luttes qui vise à l'émancipation des femmes, mais aussi dans ces guerres du masculin. Voilà, je crois qu'en tant qu'homme, il est aussi important de se situer, voire de prendre parti.
Vous évoquez à la fin de votre livre, justement, où vous parlez un peu plus de vous. Vous parlez aussi de votre rôle de père. Vous parlez aussi du mari que vous êtes. Et vous expliquez que c'était très difficile.
Ce livre a été difficile à écrire parce que à chaque livre que je lisais, à chaque ligne que j'écrivais, je faisais la différence entre l'homme juste, le portrait idéal que je traçais, et ma vie quotidienne. Voilà. Je n'ai pas le sentiment d'être un homme juste. Je ne sais pas d'ailleurs si un homme juste existe ou a existé. Mon livre se présente explicitement comme une utopie. Et puisque vous m'invitez à parler de moi, j'ai pas le sentiment d'être un homme juste, mais c'était douloureux pour moi de voir à chaque étape de ma réflexion, dans chaque sphère de pouvoir ou dans chaque domaine de la vie sociale, eh bien, la différence qu'il y avait entre ma vie quotidienne et le portrait moral de l'homme juste. Plus largement, ce livre s'inscrit dans un parcours de genre. Ce que j'appelle parcours de genre, c'est la manière dont on se construit dans son propre genre. Voilà. Je ne suis pas de ceux qui dénoncent le genre en tant que tel. Je pense qu'on est traversé par des multiples identités, des identités sociales, religieuses, familiales. Je trouve ça très bien. Moi-même, j'ai consacré un livre à mes grands-parents, donc je suis parfaitement conscient des identités familiales qui sont les nôtres. Et parmi toutes ces identités, il y a des identités de genre. On peut être une féministe et aller chez l'esthéticienne ou se mettre du vernis à ongles. On peut être un homme plus ou moins généreux, intelligent, doux, et aimer partager des bières avec ses copains, hurler devant un match de foot et se féliciter quand la France marque en Coupe du Monde. Bon, je le dis de manière un petit peu caricaturale, mais on peut être traversé par des identités de genre. La sociabilité virile dont je parlais tout à l'heure ne me pose pas problème et ne pose pas problème socialement. Aller en salle de muscu ou partager des bières avec des copains ou parler voiture, parler moto, bon, les codes de la virilité un petit peu traditionnels, je vois pas où est le problème. Ce sont des sociabilités viriles. Bon. En tout cas, pour en revenir à mon parcours de genre, ce livre, d'une certaine manière, je l'ai médité depuis plusieurs années. Il faudrait remonter à mon adolescence, peut-être à mon éducation, parce que j'ai reçu une éducation qui était plutôt traditionnelle du point de vue du genre. C'était plutôt mon père qui parlait à la maison, c'était plutôt mon père gagnait plus d'argent que ma mère travaillait moins, s'occupait davantage de nous, enfin bon, voilà, une répartition de genre archi-classique comme... cette répartition existe dans des millions de familles en France et dans le reste du monde. Et puis après est venue l'adolescence. Alors, dans l'adolescence, je dirais que je me suis senti assez mal à l'aise dans le masculin. Je faisais pas partie de ceux qui tombaient les filles. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup souffrir. De 10 à 20 ans, j'avais aucun succès. Alors maintenant, on peut en rigoler maintenant. Mais ça veut quand même dire quelque chose sur ce qu'était ma masculinité à 15 ans. J'écrivais des poèmes aux filles et les filles ne s'apercevaient même pas que j'essayais de les séduire. Donc c'était grotesque, mais ça m'a quand même fait souffrir. Et puis je me suis aperçu que les filles préféraient les garçons qui étaient plus musclés que moi ou qui étaient plus forts que moi au foot. Là encore, aujourd'hui, ça prête à sourire, mais je crois qu'à 12 ou 15 ans, c'est des choses en fait très importantes parce que c'est là que les identités de genre se construisent. Et puis sont venues les choses plus sérieuses dans mon parcours de genre. les deux choses qui ont vraiment, qui m'ont constitué dans mon genre, c'est d'abord mon parcours d'historien et ensuite mon parcours de mari et de père. Mon parcours d'historien a commencé il y a une quinzaine d'années avec un travail sur les enfants abandonnés au 19e siècle. C'est le sujet de ma thèse de doctorat. J'ai travaillé sur les enfants abandonnés et qui s'intéresse aux enfants abandonnés s'intéresse nécessairement à celles qui abandonnent au 19e siècle, les mères. Et ça renvoie à des situations d'inégalité sociale inscrite dans la loi au 19e siècle. On y reviendra si ça vous intéresse, parce que c'est assez important. Ça fait partie de notre passé patriarcal, d'une certaine manière, enfin même de notre actualité patriarcale. Et donc, en travaillant sur les enfants abandonnés, j'ai travaillé presque immédiatement sur l'histoire des femmes et sur la sociologie du genre, tant il est vrai que ce sont les femmes qui abandonnent. Et puis... quelques livres plus tard, ça m'a amené à publier mon livre Laetitia, qui est consacré à la vie et à la mort d'une jeune femme détruite en 18 ans, Laetitia Perret, jeune femme détruite par des masculinités de domination, de violence. Et ce livre, Laetitia, publié un an avant le mouvement MeToo, était une première réflexion sur les violences subies par les femmes, mais aussi sur les masculinités qui les détruisent. D'ailleurs, le sous-titre de Laetitia, c'est « La fin des hommes ». C'était déjà, bien sûr, une réflexion sur le dévoiement de ces masculinités et leur, la difformité de ce masculin qui a peu à peu détruit Laetitia, mais aussi sa sœur et leur mère. Voilà pour ce qui est de mon parcours d'historien. Et puis, il y a bien sûr, comme tout un chacun, ma vie privée. Alors, je n'ai pas trop envie de raconter ma vie, mais enfin, je peux en parler d'un point de vue sociologique. Je suis hétérosexuel, mari de la même femme depuis 20 ans. Et puis, nous avons eu trois enfants. Il se trouve que Dame Nature nous a donné trois filles. Et ça, ça a été important pour moi, enfin, au-delà de ma vie de père et de mari, ça a été un événement pour moi d'être le père de trois filles, parce que, d'une certaine manière, les inégalités se sont mises à me toucher personnellement. Et je crois que c'est très important dans une vie de passer d'une inégalité théorique à une inégalité incarnée, sensible, qui vous touche personnellement. C'est important parce que, d'une certaine manière, personne n'aime l'inégalité. Et si on faisait un rapide sondage dans cette salle, je suis sûr qu'on aurait 100% d'hommes et de femmes hostiles au patriarcat et aux inégalités de genre. Mais quand on s'aperçoit que ces inégalités peuvent vous toucher dans ce que vous avez de plus cher, vos enfants, eh bien, d'une certaine manière, c'est fini de rire. Ça vous amuse beaucoup moins. Et bon, le harcèlement de rue, tout le monde sait ce que c'est. Les inégalités salariales, tout le monde sait ce que c'est. Les violences, etc., tout le monde sait ce que c'est. Mais encore une fois, quand on vous dit que vos propres enfants vont peut-être risquer entre 16 et 40 ans ou 50 ans de se faire harceler dans la rue, voire attaquer, voire frapper, voire violer, quand ensuite... peu à peu, toute une société conspire à envoyer les filles plutôt dans les métiers littéraires ou socio-éducatifs, alors que les hommes se réservent plutôt les métiers lucratifs dans la finance, la banque, la technologie, l'engineering, les métiers de l'informatique. Ben, au bout d'un moment, voilà, c'est des choses qui vous touchent personnellement. Voilà pourquoi être père de trois filles a été en quelque sorte, au-delà bien sûr au-delà de ma paternité stricto sensu, voilà, pour cette raison, ça a été aussi un événement intellectuel, en quelque sorte. Voilà pour toutes ces raisons, j'ai éprouvé le besoin d'écrire ce livre.
Vous êtes un historien assez atypique, quand même, Yvon Jablonka, y compris dans vos réponses et dans votre livre. Il y a, par exemple, un chapitre pour lequel vous abordez les inégalités de genre en évoquant le coût. Vous dites que les inégalités de genre coûtent 6 milliards par an à la Côte d'Ivoire, 89 milliards à l'Asie. Quel genre d'historien est-ce que vous êtes ? Vous êtes un historien militant, vous êtes un historien en colère, on le voit bien quand vous relatez les sujets que vous avez choisis dans votre vie. Qu'est-ce qui vous animait quand vous avez décidé d'être historien et où vous en êtes avec cette question ?
J'ai pas décidé d'être historien. Je crois qu'en quelque sorte, c'est l'histoire qui m'est tombée dessus, qui nous est tombée dessus, puisque j'ai rendu public cet aspect de mon histoire familiale, deux grands-parents assassinés, un père orphelin, les deux autres grands-parents, d'ailleurs, les grands-parents que j'ai eus, en quelque sorte, que j'ai bien connus, nés juifs, ont traversé la guerre et l'occupation à Paris. Donc, en quelque sorte, ce sont deux survivants de la Shoah à leur manière. Bon, bref, tout ça, c'est un aspect que j'ai amplement abordé dans certains de mes livres. Donc voilà, ça c'est l'histoire, mais nous est tombée dessus. Et plus largement, j'ai toujours conçu l'histoire comme la série, l'ensemble de nos histoires individuelles. Voilà. Alors bien entendu, je suis aussi sociologue et je sais très bien que il y a un collectif et le collectif est généralement plus large que la somme de nos individualités. Mais tout de même, je sais que l'histoire est composée de nous tous. C'est pour ça que j'aime pas la conception de l'histoire avec un grand H, avec sa pompeuse majuscule, qui considère que l'histoire se limite globalement aux grands hommes. Alors si je vous dis comme ça Charlemagne, Saint-Louis, Louis XIV, Napoléon, Jules Ferry, De Gaulle, vous allez penser que c'est de l'histoire. C'est vrai, sans doute. Mais vous voyez que d'abord, c'est une certaine conception de l'histoire. En gros, c'est les grands hommes avec les hauts faits dans une conception très politique et militaire de l'histoire. Et puis, vous voyez qu'avec cette longue série que je viens de débaucher, après tout, ça nous parle aussi de domination masculine, après tout. Donc, quand on parle d'histoire avec un grand H, c'est une certaine conception de l'histoire et c'est aussi d'entrée de jeu une certaine répartition des rôles dans laquelle l'homme fait événement alors que la femme est silence. Et contre cette conception de l'histoire, tout mon être se révolte et c'est ainsi que les livres que j'ai publiés, enfin les livres qui me sont les plus chers, sont les livres que j'ai publiés à partir de Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu. C'est une certaine conception de l'histoire puisque tous ces livres parlent d'anonymes, de gens qui n'ont compté pour personne. Et ces livres parlent aussi de femmes, ma grand-mère ou Laetitia, ou dans un autre domaine, les esthéticiennes dont j'ai parlé dans mon livre Le corps des autres. Donc je ne sais pas très bien de quelle étoffe je suis fait, je sens bien que je ne suis pas exactement comme certains de mes collègues, mais après tout, c'est facile de jouer les révolutionnaires et les bouts de feu. Enfin, il n'y a pas plus au cœur du sérail que moi. Enfin, je veux dire, je suis professeur des universités, j'ai un parcours universitaire assez rectiligne, donc il ne faut pas non plus jouer les rebelles. Je suis vraiment dans le système universitaire français, et c'est précisément parce que j'occupe une position de pouvoir au sein du système universitaire français, en tant qu'universitaire, mais en tant qu'homme aussi, bien sûr. C'est pour toutes ces raisons que je peux précisément faire un pas de côté et faire entendre une voix un petit peu dissonante. Donc je suis conscient de mes privilèges, de mes atouts sociaux en quelque sorte, ou de mes atouts de genre, et c'est ça qui me permet de faire une histoire un petit peu décalée. Alors quel type d'historien je suis ? Je dirais que je suis un historien qui n'a pas peur de dire « je ». C'est un jeu de méthode, comme je m'en suis expliqué dans un de mes livres. Le jeu de méthode, c'est pas un jeu qui est impudique, c'est un jeu qui, au contraire, essaye de montrer comment nous faisons partie de l'histoire et comment nous tous avons une place dans les structures sociales ou familiales ou les structures de genre qui nous absorbent, qui nous dominent et dans lesquelles nous sommes en quelque sorte des agents ou des éléments ou des sujets. Et puis, j'essaye aussi d'être un historien qui n'a pas peur du présent. Je sais bien que les questions que l'historien pose au passé sont les questions de son temps. Et les derniers livres que j'ai faits étaient des livres qui posaient des questions profondément ancrées dans notre présent. L'histoire de mes grands-parents, ou Laetitia, ou encore celui-là. Voilà, donc je suis un historien, je suis un chercheur en sciences sociales, mais je n'ai pas peur de parler de moi, dans la mesure où ça reste sur des questions de méthode. Et puis, je n'ai pas peur de parler de ce qui nous intéresse et de ce qui nous arrive.
Dans ce livre, il y a une forme de tension qui monte petit à petit au fur et à mesure du livre. On sent que vous êtes un petit peu en colère quand même. C'est un sujet qui vous agace. Est-ce que les mots sont votre meilleure arme pour lutter contre ce, ce climat en plein Grenelle des violences conjugales, par exemple? Sur quelle arme peut-on compter?
Alors, je suis content que vous parliez de révolte, parce que c'est vrai que c'est un sentiment qui m'a animé en, en faisant ce livre. Je peux rendre hommage à deux figures tutélaires qui ont en quelque sorte veillé sur moi pendant que je faisais ce livre. La première, c'est Simone Veil. J'ai eu la chance de travailler pour Simone Veil à l'époque où elle était présidente de la Fondation de la, pour la mémoire de la Shoah. Donc je l'ai rencontrée, enfin pas beaucoup de fois, mais enfin bon, je l'ai rencontrée. J'ai eu la chance de la rencontrer, de parler avec elle. Et Simone Veil était une révoltée. Voilà. Et c'est frappant de dire ça parce que quand on la croise, enfin je ne l'ai pas connue, je l'ai croisée, on va dire, c'était. Sociologiquement, c'était ce qu'on appellerait une bourgeoise, enfin une bourgeoise, parce que c'était une dame tout à fait comme il faut, enfin qui était certainement pas en train de manifester toutes les quatre matins. Elle avait un style très bourgeois. Elle a occupé des fonctions officielles et ministérielles de premier plan. Elle était plutôt au centre droit. Donc voilà, quelqu'un d'assez pondéré. Et pourtant, je crois profondément que c'était une révoltée. Je crois que c'est ça. Je pense même que c'est ça, d'une certaine manière, qui lui a permis de survivre à Auschwitz à l'âge de 16 ans. Et puis ensuite, de faire tous les combats qu'on connaît, dont le dernier est le vote en 1974 de la loi qui porte son nom. Mais enfin, il y en a eu plein d'autres. Hein. Toute sa carrière est la carrière d'une femme révoltée contre ce qui est, enfin ce qui était et ce qui est toujours, une forme de patriarcat dans le domaine de la magistrature ou du gouvernement ou encore du Parlement européen. La deuxième figure tutélaire, c'est Albert Camus. J'ai beaucoup d'admiration pour Albert Camus et Albert Camus a écrit un livre qui s'appelle « L'homme révolté ». L'homme révolté, c'est un livre que j'aime bien. C'est un livre qui a été traîné dans la boue quand il est paru il y a quelques décennies, mais c'est un livre que j'admire pour son courage, pour sa lucidité, hein, à l'époque où certains voyaient l'Union soviétique comme un jardin d'Éden. Et ce livre a compté pour moi parce que, d'abord pour son courage, mais aussi pour cette notion de révolte. Et je crois que les hommes justes, là encore c'est un terme très camusien, les hommes justes sont d'abord des révoltés. Enfin, je dis les hommes, les êtres humains justes sont d'abord des révoltés. Et loin de moi l'idée de dire que c'est ma révolte qui fonde cette justesse et cette justice que j'essaye de mettre en œuvre. En tout cas, c'est vrai que je ressens une forme de révolte. Ce qui a animé ce livre, c'est une révolte vis-à-vis des injustices de genre. Et chacun de mes livres a été... animé, mu par une révolte. Le livre sur mes grands-parents, c'était une révolte contre le silence, contre l'indifférence, contre l'oubli. C'est exactement la même révolte qui m'a poussé à faire la biographie de Laetitia Perret dans le livre qui porte son nom, parce que de la même manière, j'étais révolté par le sort qui lui avait été fait dans la vie, mais aussi dans la mort. Il ne faut pas oublier que quand j'ai commencé mon livre, Laetitia n'était rien d'autre qu'un cadavre mutilé. Et ça m'a révolté l'idée qu'elle puisse rester comme ça pour l'éternité, ce cadavre coupé en morceaux. Et donc j'ai éprouvé le besoin d'écrire sa vie. Voilà, et on en vient à ce livre. Oui, c'est vrai, il y a des situations que je trouve révoltantes. Alors on pourrait me dire, c'est d'ailleurs une certaine, c'est peut-être une réaction naturelle, hein, on pourrait me dire, mais au fond, qu'est-ce que ça peut te faire? Puisque toi-même, en tant qu'homme, tu as indirectement bénéficié de ce système. C'est vrai, c'est vrai. J'ai indirectement bénéficié de ce système. Un exemple entre plusieurs, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai un certain nombre de positions hétérodoxes dans mon métier d'historien et de chercheur, et je suis certain que j'ai moins été attaqué en tant qu'homme que si j'avais été une femme. Ça, j'en suis certain. J'ai pourtant été attaqué, hein. Mais je suis sûr que, en tant qu'homme, on se dit que bon, bah, si je défends cette position, c'est quand même que c'est quand même, ça doit quand même être un petit peu plus sérieux que ce qu'on croit. Donc en ce sens, j'en ai bénéficié. Mais on peut ensuite avoir une position morale vis-à-vis des inégalités ou des injustices. Et j'essaye d'avoir cette position morale, même si ce n'est pas évident. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, je suis environné de femmes. J'ai le sentiment que mon père, en quelque sorte, n'était pas dans un rapport égalitaire avec ma mère. Et puis ensuite, sont venues ma femme, mes filles, etc. Donc, pour des raisons tant morales que pragmatiques, j'ai le sentiment d'être impliqué dans cette réflexion et peut-être dans ce combat.
À propos de révolte, vous évoquez les différents mouvements féministes et vous expliquez aussi d'une façon très juste qui va sûrement réconcilier toutes les féministes du monde. Vous dites en fait, mais c'est normal quand même d'avoir du mal à se mettre d'accord quand le sujet est aussi vaste.
Oui, c'est vrai. Enfin, les pensées féministes sont d'une extrême richesse. On oublie. Quand on dit féminisme, on pense souvent aux années 60, 70, mais le féminisme au sens strict est né il y a à peu près 230 ans, hein, pendant la Révolution française. Hein. Je pense que c'est un petit peu l'acte de naissance du féminisme. Le féminisme est né, si vraiment on veut trouver une date, le féminisme est né dans les années 1789-1790. 1789, ce sont les premières brochures féministes qui se heurte aux privilèges masculins, hein, textuellement, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les révolutionnaires femmes dès janvier 1789, hein, donc dès avant quelques mois avant la prise de la Bastille, à l'époque des cahiers d'oléances, il y a déjà des femmes qui parlent en termes de privilèges masculins. Il y aura un ouvrage fondamental et méconnu de Condorcet, de 1790, quelques mois après la Déclaration des droits de l'homme, qui fort opportunément oublie les femmes. Condorcet, quelques mois plus tard, publie un livre sur le droit de suffrage féminin, en 1790, et un an plus tard, c'est le livre, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Olympe de Gouges. Donc, en quelques années, en 1789-1791, naît ce qu'on peut appeler aujourd'hui le féminisme. La Révolution française est terminée, mais pas la Révolution féministe à laquelle elle a donné naissance. À partir de là, il y a eu des générations et des générations de féministes dans tous les pays du monde, hein, et pas simplement en Europe de l'Ouest. Et j'ai essayé, dans un trop court chapitre, j'ai essayé de parler de toutes ces pensées féministes. Je ne parle pas en termes de vagues. On dit souvent première vague, deuxième vague, troisième vague. Je pense que c'est une erreur parce que dès la fin du XVIIIe siècle, les femmes parlent de ce qu'on n'appelait pas à l'époque le genre, mais enfin, c'est déjà des identités de genre. Les femmes parlent de violence, d'égalité dans le mariage, d'égalité professionnelle. Bref, c'est déjà la deuxième ou la troisième vague. Bon. Donc, je ne parle pas en termes de vagues. En revanche, je pense qu'il y a une très grande pluralité des féminismes, et il était fatal que, à certains moments, à certaines époques, dans certains pays, ces féminismes se heurtent et parfois s'opposent. Et donc, il est assez facile, hein, d'avoir une position ricanante qui consisterait à dire, hein, de manière un petit peu familière, bonne femme, mettez-vous d'accord, et puis venez nous dire un petit peu ce que vous voulez, vous n'êtes même pas d'accord entre vous, etc. C'est assez facile d'avoir cette position ricanante. Je pense que c'est surtout que le féminisme a en fait une telle ambition titanesque que, voilà, il n'est pas facile de se mettre d'accord dès lors qu'on veut remettre en cause des structures sociales qui sont en fait millénaires et qui remontent, comme j'ai essayé de le montrer dans mon livre, à probablement le néolithique, c'est-à-dire probablement 6000, 7000 ans, 8000 ans. Bon. En ce sens, la tâche est tellement titanesque que toutes les énergies sont bonnes et en même temps, il est bien normal qu'on ne sache pas exactement à quoi donner la priorité. Ce que je pense, c'est qu'on est arrivé à une étape du féminisme ou des féminismes qui est en quelque sorte crucial au sens strict, hein, à la croisée des chemins. D'abord, le mouvement MeToo a été, je crois, une étape importante pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est un mouvement mondial, concomitant, ce qui, à ma connaissance, n'était jamais arrivé. Et bien sûr, c'est permis par des moyens techniques que tout le monde connaît. MeToo, c'est aussi une prise de parole collective, sororale, si vous me permettez cette expression, au sujet non seulement des violences physiques et sexuelles, mais de tout un système de domination masculin qui s'exprime au travail, dans la rue, dans la famille, et bien sûr dans le domaine de la séduction et de la sexualité. Et je crois qu'il y a eu ici, en quelque sorte, un malentendu entre les hommes et les femmes. Les femmes, je simplifie, hein, mais les femmes, en s'engageant dans le mouvement MeToo, ont eu le sentiment de dénoncer non seulement des violences, mais tout un système de domination. Et pour les hommes, MeToo, enfin pour les hommes de bonne volonté, parce qu'il y a eu plein d'hommes qui ont trouvé que c'était une tempête dans un verre d'eau, etc. Mais pour les hommes de bonne volonté, MeToo n'a été qu'une réflexion sur la séduction et, en gros, le sexe, d'où ce questionnement intime de certains hommes qu'on connaît bien. Comment séduire aujourd'hui? On n'a plus le droit de rien dire. Comment je fais pour draguer? Est-ce qu'on a le droit de... etc. etc. Mais cette remise en question, qui est tout à fait nécessaire, hein, qui est intéressante, hein, comment séduire, c'est une vraie question, mais je crois que c'est une interprétation très réductrice du mouvement de MeToo, parce que ça allait bien au-delà des questions de séduction et de sexualité, qui, encore une fois, restent importantes. Donc, le féminisme est à la croisée des chemins pour cette première raison. Et la deuxième raison, c'est le rôle des hommes. Il est normal que... un homme qui s'aventure dans les chemins féministes, c'est normal qu'un homme suscite une certaine prudence, voire une certaine méfiance. C'est normal, je l'assume, et c'est la raison pour laquelle je ne me prétends pas directement féministe, mais je préfère dire que j'ai une réflexion sur le patriarcat et j'essaye de faire en sorte que ma masculinité soit antipatriarcale. Et secondairement, je suis féministe, mais je n'ai pas non plus envie de jouer ni les héros ni les porte-drapeaux sur le féminisme, parce que beaucoup d'hommes entrant dans les associations féministes se sont empressés de prendre le pouvoir et de devenir les porte-parole. Donc je suis très prudent avec ça, et moi-même, je ne suis pas dans les associations et je ne prétends pas y entrer. Cependant, même si les hommes doivent être prudents avec le féminisme, je pense malgré tout que les prochains succès du féminisme se mesureront à leur capacité à transformer les rôles masculins. Ça, j'en suis persuadé. Je pense que les prochains défis du féminisme ou des féminismes, c'est la redéfinition des rôles masculins. Et là, je ne vois pas comment on pourrait avancer sans la participation des hommes. D'où mon livre, hein, qui est encore une fois un livre moins féministe que antipatriarcal, hein, avec les nuances que j'ai précisées. Et j'ai préféré, pour des raisons presque pragmatiques, aborder la question en évoquant les rôles masculins. Et j'ai envie de dire aux hommes, après tout, je suis un homme qui parle aux hommes, hein, voilà, c'est une conception très genrée, mais pourquoi pas. Et j'ai un petit peu envie de dire aux hommes, et notamment aux plus jeunes, qu'est-ce que tu mets dans ta masculinité? Est-ce que la masculinité doit être définie par l'autorité, l'assurance, la force physique, sociale, l'idée de performance, performance de genre, performance sociale, voire performance sexuelle? Est-ce que la masculinité, c'est tenir bon, nier ses failles, nier sa vulnérabilité? Ne pas pleurer, avec tout ce que ça implique de supposer solidité. Ou est-ce que la masculinité, c'est autre chose? Voilà, dans quelle masculinité avons-nous envie de nous projeter tous, nous, hommes? Et peut-être, ce qui est encore plus important, quelle masculinité voulons-nous enseigner à nos garçons? Je crois que les masculinités de domination se définissent dans une triple violence. Violence vis-à-vis des femmes, bien sûr, violence vis-à-vis de ces sous-hommes, entre guillemets, que sont les homosexuels, les juifs, les intellos, les noirs, les etc. J'en ai parlé. Violence, enfin, contre les garçons. Les masculinités de domination sont violentes vis-à-vis des garçons qu'on ampute d'une partie d'eux-mêmes, d'une partie de leur vie sociale, de leur vie intellectuelle, de leur vie émotionnelle, de leur vie sexuelle, etc., etc. Et je crois qu'à la fin, on en arrive à une espèce de d'appauvrissement du masculin, c'est-à-dire tout simplement un appauvrissement de la vie, pas de la vie quotidienne, tout simplement, avec des choses qu'on connaît bien. Les hommes lisent beaucoup moins que les femmes. Les hommes consultent beaucoup moins des thérapeutes que les femmes. Les hommes ont une sociabilité beaucoup plus restreinte que les femmes. Les hommes s'occupent beaucoup moins des enfants, des personnes âgées et des réseaux amicaux que les femmes. Les hommes ont une surmortalité beaucoup plus, enfin, ont une mortalité beaucoup plus grande que les femmes. Hein, donc, il y a une surmortalité à tous âges dont souffrent les hommes. Et cette surmortalité ne vient pas de nulle part. Prise de risque stupide, hein, se foutre en l'air en voiture à 20 ans, se foutre en l'air en moto parce que ça fait partie de cette supposée virilité, tenir l'alcool. Faire un certain nombre de transgressions, se droguer, tenir l'alcool, ne pas avoir peur dans un certain nombre de situations à risque. Bon, on pourrait dire que c'est très bien, hein, que les hommes n'ont pas peur, n'ont pas froid aux yeux, n'ont pas peur des risques. Enfin, le résultat, ça fait que dans une génération, les hommes meurent deux fois plus que les femmes entre 30 et 60 et se suicident trois à quatre fois plus que les femmes, et ce, dans tous les pays. Donc il y a un coût de cette masculinité étroitement définie, et ce coût, c'est le genre tout entier qui le paye. Donc la masculinité de domination paye, bien sûr, socialement, mais elle se paye aussi. Et ma réflexion porte aussi sur l'intérêt bien compris que les hommes pourraient avoir à enrichir leur vie, tout simplement, en regardant d'autres modèles de masculinité.
Alors, on pourrait rester pendant très très longtemps, parce que votre livre est énorme, il y a tellement de choses passionnantes à en dire. Par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant, je vais rebondir sur une seule chose. Malheureusement, on pourrait parler des religions, de la médecine, on pourrait parler de beaucoup de choses, d'après ce que vous venez de dire. Je vais rester sur le foyer, le quotidien du foyer. En France, par exemple, sur 2 millions de foyers monoparentaux, 85% sont des femmes seules avec des enfants, d'où une très grande précarité de ces foyers-là. Et dans votre livre, vous évoquez des propositions qui pourraient être liées, par exemple, à une autre façon de voir la garde des enfants. On voit bien aussi qu'en ce moment, on est dans ce fameux Grenelle dont on a parlé il y a un instant. Et en même temps, dans votre livre, vous expliquez très clairement qu'il est impossible, voire vraiment presque tordu, de s'attaquer au petit rictus, au petit sourire malveillant, à la petite phrase qui n'a l'air de rien, à la blagounette, à la... Voilà, il y a quand même un endroit où on ne peut pas mettre de cadre.
Alors, pour répondre à votre question, je dois faire un petit pas de côté sociologique. Je pense qu'il est fondamental, comme n'importe quel sociologue le sait, de faire la différence entre ce qui relève de l'individu et ce qui relève du système social. Je pense que c'est fondamental parce que sinon, on se fourvoie en essayant de repenser les masculinités. Il y a ce qui relève de l'individu et de ce que j'appellerais de la bonne volonté. Dans un couple, hein, il suffit d'avoir vécu quelques années en couple, surtout quand on a des enfants, pour savoir que très rapidement, les inégalités de genre s'installent. Je ne dis pas reviennent, puisqu'elles ne sont jamais parties, mais s'installent. Ça va être, par exemple, le fait, quand on a des enfants, que c'est généralement la femme, enfin la mère, qui prend un congé maternité ou parental plus long que le père, qui se réveille la nuit, donc qui est plus fatiguée, qui reprend le travail de manière plus douce ou tranquille, ce qui occasionne un certain nombre de ruptures de carrière. Et puis, peu à peu, ça va être la mère qui se mettra à mi-temps ou qui ira chercher les enfants à l'école. Le père, dans le meilleur des cas, s'occupera un peu de ses enfants, mais dans les activités les plus valorisantes, par exemple, emmener les enfants à la piscine ou au cinéma, alors que les femmes feront plutôt le travail quotidien et peu valorisant, typiquement les compétences textiles, c'est-à-dire passer ses soirées sur laredoute.fr pour acheter les sockets et les t-shirts, et puis ensuite faire les lessives, puis ensuite trier le linge. tout ça, c'est pas très valorisant. Ça ennuie tout le monde. Et puis, que les enfants trouvent leur socket propre le matin, bon, bah, ça leur paraît normal. Alors que quand l'homme fait des bonnes choses à manger, c'est beaucoup plus valorisant. Bon, tout ça, ça relève de des choix individuels. Souvent, d'ailleurs, des tensions de couple, hein, des engueulades. Alors, dans le meilleur des cas, l'homme change, mais parfois, il ne change pas. Bon, tout ça, ça relève de ce que j'appellerais l'individu et la bonne volonté. Tout autre, tout différent est l'effet de système. Et je pense que la domination masculine a des aspects individuels évidents, hein, qu'on trouve dans les inégalités que je viens d'évoquer ou dans les violences, dans les cas les plus graves. Mais la domination masculine s'exprime aussi dans un système social. Et c'est là que c'est le plus dur. Parce que vous et moi, on a tous envie que ça change. Hein, et peut-être qu'on fera beaucoup d'efforts, vous et moi. Mais enfin, c'est pas comme ça qu'on changera malheureusement le système social dans lequel nous vivons. Et je vais maintenant vous donner quelques exemples pour vous montrer à quoi le féminisme s'est attaqué depuis deux siècles et demi. Par exemple, vous savez peut-être que, enfin, vous savez certainement que dans le système de sécurité sociale, il y a des numéros, hein, on en a tous. Les hommes ont le 1, les femmes ont le 2. Un autre exemple, ma femme, ça la rend furieuse. Les comptes communs bancaires, hein, quand le relevé bancaire vous arrive, c'est souvent monsieur et madame Yvan Jablonka. Hein, je prends mon exemple, mais c'est souvent ça, c'est le principe de l'absorption conjugale. Une fois qu'on est marié, c'est l'homme qui incarne l'unité conjugale, ce qui fait que la banque considère que c'est monsieur et madame Yvan Jablonka. Autre exemple. Là, on entre dans le domaine de la vie domestique et parentale. J'ai fait l'expérience quand on donne les deux numéros de téléphone du papa et de la maman à l'école ou à la crèche, la crèche, en cas de maladie de l'enfant, appelle la maman. Et c'est souvent des femmes qui appellent la maman. Pourquoi ? Ben, sans doute parce que la femme va mieux savoir s'y prendre. Le pire, c'est quand c'est l'homme qui est appelé. Ben, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il appelle sa femme. Il dit, ben, chérie, là, la crèche m'appelle, qu'est-ce que je fais ? Bon. Donc, ben, par souci d'efficacité, ben, la crèche appelle directement la femme. Pour entrer dans un exemple encore plus douloureux, parce que je crois que ça concerne des millions de couples, c'est ce que j'appellerais, enfin, c'est ce que les sociologues appellent l'hypogamie. L'hypogamie, c'est l'idée que, bien souvent, les hommes se marient socialement en dessous de leur propre statut social. Donc typiquement, je vais parler de ma propre famille, hein, comme ça je ne vexerai personne. Mon père était ingénieur et ma mère était professeure. Ça veut dire que mon père gagnait plus que ma mère et ça veut dire aussi que ma mère avait plus de souplesse dans son emploi du temps. Je crois qu'elle a été d'abord à mi-temps, puis ensuite elle s'est mise à trois quarts de temps, mais assez rapidement, la femme, dans une situation d'hypogamie, se retrouve dans un métier d'appoint ou avec un salaire d'appoint. Et quand il s'agit de savoir qui c'est qui s'arrête de travailler ou qui c'est qui passe à mi-temps, ben, enfin, les gens ne sont pas bêtes. C'est nécessairement la femme, puisque précisément, elle gagne moins et qu'en plus, elle a plus de facilité du point de vue des horaires de travail. Je ne suis pas en train de dire que monsieur est méchant et que madame est gentille. Vous voyez bien que ce sont des fonctionnements sociaux. Et à partir de là, tout commence. Et c'est la raison pour laquelle j'aime pas me situer dans un débat psychologique et individuel. C'est très bien de faire des efforts, hein, messieurs, faites des efforts, c'est très bien. Mais vous voyez bien que c'est pas là que le vrai débat se situe. Et mon livre est un livre en ce sens politique, c'est-à-dire que pour repenser le masculin, il faut des hommes de bonne volonté, bien entendu, mais il faut aussi avoir une réflexion politique sur ce que c'est que le masculin. J'ai un petit peu ébauché la réflexion dans les minutes qui ont précédé, mais vous voyez que penser le masculin, c'est aussi réfléchir à des politiques publiques, à un féminisme d'État, à des réformes qui pourraient renverser les préséances de genre ou les prépondérances de genre et faire en sorte que ce soit moins cool pour les hommes et moins dur pour les femmes, pour le dire de manière un petit peu schématique, ou pour faire en sorte que ben, y ait pas ces situations si faciles d'hypogamie ou de préséance masculine et paternelle. Et ça, vous voyez bien que ça demande des réformes ou des politiques publiques qui nous précipitent pleinement dans le politique. Hein. Quelle société voulons-nous ? Quel parti politique voulons-nous ? Et à cet égard, on ne peut pas repenser les rapports de genre sans ces corps intermédiaires que sont les partis politiques, les syndicats, les associations et aussi les églises. Point fondamental qu'on oublie parfois. Mais bref, tous ces corps intermédiaires doivent avoir une réflexion, alors que bien souvent, ces corps intermédiaires incarnent à eux seuls la domination masculine. La classe politique française offre à cet égard un spectacle lamentable. Et quant aux églises, c'est pas mieux. L'Église catholique est sans doute une des institutions les plus patriarcales au monde. Et évidemment, je ne veux pas entrer dans le détail des autres monothéismes. Mais enfin, là encore, la situation est vraiment lamentable. Donc vous voyez que j'ai pas vraiment de solution, à part quelques réformes que j'évoque dans mon livre. En revanche, je pense que c'est vraiment des projets de société que tout cela engage.
Comment s'en sort la France aujourd'hui ? Quels sont les pays qui sont plus en avant ? Alors, dans votre livre, vous faites beaucoup écho à tout ce qui se passe dans le monde. Bon, bien sûr, les pays nordiques sont plutôt mieux placés que d'autres pour un certain nombre de choses et seulement un certain nombre de choses. Parce que c'est pas gagné, quoi. C'est pas si évident. Et dans l'histoire, on voit bien qu'en France, il s'est passé quand même des choses fortes, importantes, mais en même temps extrêmement récentes. Donc l'histoire est fragile.
Alors votre question est un peu glissante parce que si je dis que en France la situation est plutôt bonne, et bien entendu vous aurez tous des objections à me faire et vous aurez raison. Alors, je me référerai au classement mondial des inégalités de genre sur à peu près 150 États. Sur 150 États, la France se situe dans les au 12e ou au 13e rang. C'est pas mal. Donc globalement, c'est pas mal. Le premier rang est occupé par l'Islande. Viennent ensuite, sans surprise, les pays nordiques. Les derniers rangs du classement sont occupés par les pays arabo-musulmans et certains pays d'Asie, comme le Japon. Vous voyez par parenthèse que ce n'est pas une question de riche ou pauvre. Hein. L'Arabie saoudite est un des pays les plus riches du monde, le Japon aussi, et dans ces deux pays, la situation des femmes est catastrophique. Mais vous voyez que, d'une certaine manière, quand on parle en termes moraux, la moindre inégalité est insupportable. Donc, dire qu'il y a des classements, bien sûr, c'est bien de faire des classements, mais commencer à dire « en France, c'est bien ». Oui, c'est vrai que la France, c'est mieux que l'Arabie saoudite ou que le Malawi ou que le Japon. C'est vrai. Mais ça n'empêche pas que, d'un point de vue moral, toute inégalité est insupportable. Donc, venons-en à la France. Bon, il y a des chiffres que tout le monde connaît, notamment sur les violences physiques, sexuelles, je n'y reviens pas. Beaucoup de choses ont été dites sur les inégalités au sein du couple. Là encore, c'est des choses assez connues. Ce que j'ajouterais, qui est peut-être moins connu, c'est le long passé misogyne de l'État français. C'est quelque chose qui n'est pas bien connu, parce que la France peut s'enorgueillir, à juste titre, je crois, d'une longue histoire démocratique. C'est vrai que la France est un des pays qui a inventé la démocratie ainsi que ce qu'on appelle les droits de l'homme. Et je crois que les droits de l'homme, c'est une valeur en soi. Mais la France a aussi une longue histoire de misogynie, misogynie d'État. Parlons du 19e siècle. Je vous le décris en quelques grandes mesures. Après l'avènement du féminisme pendant la Révolution française, il y a eu en quelque sorte un retour de bâton, un backlash, comme on dit en anglais, qui se caractérise par la promulgation en 1804 du Code civil, un des codes civils les plus misogynes de toute l'histoire de l'Europe. Notamment, c'est par la loi, les femmes sont considérées comme des mineurs. C'est-à-dire que les femmes, vous les traitez comme on traite aujourd'hui un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, vous avez le droit de le punir, vous avez le droit de lui interdire de sortir, vous fixez son domicile, etc., etc. Les femmes sont considérées comme des mineurs. Les femmes doivent obéissance à leur mari. Ça, c'est en 1804. Quelques années plus tard, le divorce est interdit, alors que la Révolution française avait permis le divorce. Le divorce est interdit, hein, ça veut dire que la femme mariée est en quelque sorte dans une espèce de prison dont elle ne peut pas sortir, puisque le divorce est interdit, et c'est une prison dans laquelle les violences physiques, ce qu'on appelle aujourd'hui le viol conjugal, et toutes sortes de vexations, d'humiliations, sont non seulement autorisées, mais fondées légalement. Et puis, en 1848, c'est l'avènement du suffrage universel. Alors, quand j'étais à l'université, on disait le suffrage universel. Et puis, on s'arrêtait là, d'un point de vue pudiquement. C'est en fait le suffrage universel masculin. Et en fait, 1848, c'est une date importante dans l'histoire de la démocratie, puisque c'est la première fois où tous les hommes ont le droit de vote indépendamment des conditions de fortune. Mais bien entendu, c'est aussi la première fois où les femmes sont exclues en tant que telles. Alors qu'auparavant, les femmes étaient exclues, bien sûr, hein, à l'époque de l'Inde de Gouges. Mais aussi, il y avait plein d'autres hommes. Les pauvres, les criminels, bon, il y avait plein d'autres, ou les vagabonds, les domestiques, bien, plein d'autres hommes étaient exclus à l'époque de la Révolution française. À partir de 1848, ça devient une exclusion de sexe, hein, c'est-à-dire une inégalité fondée en naissance. Ça, c'est 1848. Et encore plus, ce qui est encore plus douloureux pour nous, c'est que cette misogynie d'État qui est fondée par la Deuxième République, hein, 1848, sera prolongée par la Troisième République, qui a, pendant des décennies, expliqué que les femmes devaient être exclues de la cité. C'est pourquoi je suis très prudent quand on parle aujourd'hui avec pompe des valeurs républicaines. J'aimerais bien savoir ce que c'est que les valeurs républicaines. Ceux qui disent les valeurs républicaines, en fait, ignorent l'histoire des cinq républiques françaises et ignorent notamment le long passé misogyne de la Deuxième et de la Troisième République. Voilà, je ne voudrais pas non plus faire un cours ex cathedra, mais enfin, vous voyez en tout cas que la France a un lourd passif à cet égard, et ce passif, associé au poids de l'Église catholique, explique le retard dans lequel la France se trouve et qu'on voit, par exemple, en matière de congé parental. Quand on regarde la législation sur le congé parental aujourd'hui en Europe, on voit que beaucoup de progrès ont été faits. Dans les pays nordiques, mais aussi dans des pays qui ont longtemps eu la réputation du machisme méditerranéen, comme l'Espagne et le Portugal. La France a, en matière de congé parental, un retard incroyable et même impardonnable.
Voilà. Le mot de la fin, Yvan Jablonka, ce serait non, c'est non ?
Non, c'est non. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Non, c'est non. Parce que dans votre livre, vous faites un chapitre à un moment donné en disant c'est quand même pas compliqué. Non, c'est non.
Ah oui, mais là vous me lancez sur la question des, vous me lancez sur la question des de consentement, et là, hélas, dans la minute qui nous reste, je vais pas
avoir
le temps.
Mais non, mais allez-y, prenez plus d'une minute, c'est une question que vous ne pouvez pas éviter après avoir écrit ce livre.
Non, enfin, encore une fois, l'heure c'est l'heure, et je suis quelqu'un de respectueux à cet égard. En revanche, c'est vrai que on peut lancer la question, et puis peut-être certains d'entre vous voudront souhaitent qu'on y revienne, mais MeToo stricto sensu a relancé la question de la séduction, des sexualités et la manière dont le consentement s'exprime. Alors, je ne vais pas me lancer là-dedans, je répondrai à vos questions si vous en avez. Ce qui m'a amusé, je préfère terminer sur cette anecdote, c'est mon passage sur France Inter. Certains d'entre vous ont peut-être entendu. Je suis passé il y a une semaine sur France Inter avec deux journalistes dont la déontologie et l'intelligence ne sont remises en cause par personne, et certainement pas par moi. Mais très rapidement, la question en est venue sur la galanterie. La galanterie. Et j'ai été un petit peu accusé à l'antenne d'être le fossoyeur de la galanterie. Alors ça m'a amusé. Faire un direct à 8h du matin, c'est pas très amusant, c'est même un peu stressant, mais c'est quand même amusant parce que sur la galanterie, il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, vous voyez que sur quelque chose d'un petit peu comme ça, qui pourrait sembler relever de l'anecdote, il y a en fait des choses très importantes qui se jouent. et qui nous traversent de manière très intime. Comment séduit-on? Comment peut-on s'adresser aux hommes, aux femmes dans une relation hétérosexuelle? Comment fait-on sentir le désir pour l'un ou pour l'autre? Voilà, pour l'heure, je laisse la question ouverte, mais vous voyez que c'est des débats qui nous traversent tous, et ça me fait plaisir de les avoir abordés avec vous.
Merci, Benjamin Locard.